de renforcer les valeurs de la République et de la démocratie locale en faisant participer les gens, en les associant. Le rôle des élus, c'est de rassembler et de vivre ensemble. Hein, d'où voilà, le nom officiel du bulletin municipal hein, de la commune. Je crois qu'il faut que les citoyens, aujourd'hui, se rassemblent au niveau de leur commune, à l'échelon local, pour participer à la vie de la cité.
Voilà, de la citoyenneté active. Et voyez comment cette initiative, elle s'insère totalement dans nos débats de ce matin, quand on a parlé de la nécessité d'avoir les moyens de la réactivité, la vitalité des territoires, eh bien, ça passe par cette citoyenneté. Ça passe aussi par de l'organisation institutionnelle. Alors, monsieur le préfet, pour entamer cette séquence d'actualité, peut-être répondre aux interpellations qui se sont exprimées déjà au cours de notre débat sur l'intercommunalité et les périmètres d'intercommunalité.
Merci beaucoup. D'abord, merci de votre animation qui donne du vivant à cette réunion. Merci, monsieur le maire, de nous accueillir ici. Je dois dire que j'étais un peu idiot tout à l'heure parce que je ne reconnaissais pas la salle dans laquelle, à l'automne dernier, on a mangé pour l'avant-match de rugby. Et je vous disais, mais qu'est-ce que c'est que cette salle que je ne connaissais pas ? Donc, je vois qu'elle a été magnifiquement insonorisée, notamment à l'intérieur et aussi un peu à l'extérieur. Mes félicitations aussi à monsieur le président de l'Association des maires et des élus du Lot. C'est la deuxième fois que je participe à cette réunion et je vois que vous y avez mis une qualité d'échange qui, je crois, est à la hauteur de l'Assemblée qui est réunie. Alors, il y a une première question qui m'est posée, finalement, ou une interpellation.
Question directe, hein, là.
Mais je voudrais, bien sûr, mais je voudrais aussi qu'on ait l'occasion ensuite de prendre tous les trois d'autres questions s'il y en avait. J'ai beaucoup apprécié les échanges qui ont eu lieu sur l'intercommunalité tout à l'heure. Il nous donne à voir une chose qui est évidente, c'est que ce n'est pas une affaire de taille. Voilà. J'ai pensé au début, par les premières interventions, que la mise en cause de grandes structures ou la défense de petites structures serait l'alpha et l'oméga. Ça n'a pas été le cas. On voit bien que pour l'intercommunalité, pour d'autres cas aussi, d'ailleurs pour les communes elles-mêmes, il ne peut pas y avoir une seule modèle et un seul modèle et une seule organisation. Paris est une commune. 2 500 000 habitants. Espérou est une commune, 70 habitants. Tout ça, ce sont des communes. Et donc, défendre l'idée qu'il y aurait une bonne taille adaptée, la proximité justifierait une toute petite taille, ou au contraire, les mutualisations justifieraient une très grande taille, ça n'a pas de sens. Ça n'a d'autant plus de sens que ce n'est pas ce que la loi impose aujourd'hui. Et la loi NOTRe, à qui on peut trouver plein de défauts, n'a pas imposé un schéma unique. Elle a permis une discussion et une respiration sur les territoires. Et bien sûr, quand le résultat n'est pas celui qu'on souhaite, on est toujours contrarié. Mais au fond, la loi n'a pas imposé un modèle unique. C'est si vrai que dans le Lot, comme dans toute la France, il y a des intercommunalités de taille très différente. Le seuil de 15 000, parfois abaissé au seuil de 5 000 habitants, compte tenu de critères de densité qui tiennent notamment compte des territoires ruraux, a permis, dans le Lot, comme dans le reste de la France, qu'il n'y ait pas un seul modèle. L'autre point que je voulais dire, c'est que il ne faut pas se tromper de combat ou d'échelle. La proximité, oui, bien sûr, mais comme ça a été dit par certains, il y a aujourd'hui des vents positifs ou négatifs qui dépassent largement le cadre de la commune, qui dépassent le cadre du département, qui dépassent même le cadre de la région. Dans notre département, qui est à la frontière d'autres régions, nous serions bien imprudents de ne pas nous préoccuper de savoir comment s'organisent des autres, et de raisonner pour mettre en place nos propres organisations intercommunales uniquement compte tenu de nos intérêts proches, si je puis dire. La dernière chose que j'ai retenue de la table ronde, c'est qu'il faut être très attentif, une fois que des règles et des organisations existent, aux modalités pratiques de fonctionnement. Et j'ai écouté avec attention Vincent Labarthe dire le souci qui est le sien, il m'en a parlé souvent, d'être à la tête d'une grande intercommunalité, et l'autre souci qui est le sien, qui est de faire respirer la vie démocratique dans cette grande intercommunalité. C'est aussi ce que fait Gilles Liebus dans Coval d'Or. C'est pour ça qu'à mon avis, la question de la taille n'est pas essentielle, pas plus, il faut faire attention à ne pas se faire piéger, que celle de la région naturelle ou du bassin naturel. Parce que la France est-elle une région naturelle ? Nos voisins, nos amis allemands, aujourd'hui, à une époque, nous l'ont contesté, le fait des frontières naturelles de la France. Donc je crois qu'il n'y a pas de frontières naturelles. Il y a des frontières qui sont celles que les femmes et les hommes construisent à partir de projets, de dynamiques en les construisant. Ensuite, je dois une réponse à quelques maires qui m'ont interrogé et à deux présidents d'intercommunalité qui m'ont aussi interpellé. je vais devoir, dans peu de temps, prendre une décision. On ne pourra pas me reprocher, on ne pourra pas dire qu'il a manqué de discussion, d'écoute, d'attention. J'ai consulté, bien sûr, les maires concernés, j'ai consulté les présidents d'intercommunalité, j'ai écouté les parlementaires, j'ai écouté aussi tous ceux qui connaissent l'histoire de ce département bien mieux que moi, depuis 13 mois, bien mieux que moi, et qui m'ont expliqué pourquoi, à certaines époques, des regroupements possibles auraient pu être réussis, notamment à l'échelle du COS central, et pourquoi ils n'ont pas eu lieu. J'ai entendu ça. J'ai entendu ensuite les préoccupations des uns et des autres. Ce qui n'a pas manqué, c'est la consultation. Ce qui ne manquera pas, je vous le promets, c'est le courage que j'aurai pour assurer ma décision. Je l'assumerai, cette décision, parce que de toute façon, elle fera des mécontents. J'aurais adoré, je n'ai pas essayé, je n'ai pas hésité, je n'ai pas ménagé mes efforts depuis un an, j'aurais adoré qu'il y ait une solution qui convienne à tout le monde. Je pense qu'elle serait possible, qu'elle aurait été possible, peut-être il y a très longtemps, peut-être pas aujourd'hui. En tout cas, j'aurais fait tous les efforts. Maintenant, je prendrai ma décision, elle conviendra à certains, elle ne conviendra pas à d'autres. Ce que je souhaite ensuite, c'est qu'on puisse travailler sereinement pour que, quelle que soit cette décision, vous puissiez fonctionner dans vos intercommunalités, que vous soyez capable de vivre entre vous sans avoir besoin d'interpeller l'État régulièrement, parce que j'accepte et je l'accepterai encore très volontiers, c'est mon métier et mon plaisir, l'invitation à l'État à répondre. Mais il y a une grande part du travail qui dépend de vous. C'est une très bonne nouvelle. C'est aussi le sens de ce congrès. C'est le fait que la place est aux élus. Honneur aux élus.
Merci, Monsieur le Préfet. Serge Rigal, le président du Conseil départemental, dans ce nouveau paysage avec les intercommunalités, et puis là aussi, pour vous, des évolutions qu'il a fallu digérer, adapter, et une actualité financière aussi compliquée pour les départements.
Oui, en effet. Déjà, ce qu'il faut bien tenir compte, c'est, vous l'avez dit, ces changements qui ont eu lieu et dans les compétences, notamment pour les départements qui perdent nos compétences économiques, qui vont vers les communautés de communes, et qui certainement obligent un peu la réorganisation des communautés de communes pour pouvoir répondre à cette exigence. Ça a été très bien dit et très bien expliqué par Vincent, où on voit un développement économique important qui se fait sur le secteur de Figeac et qu'il faut collectivement supporter pour qu'elle soit faisable. Donc je crois bien que ça, c'est à tenir en compte et qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir une vision différente de la communauté de communes par rapport à hier, par cette compétence-là, certainement. Sur nos situations financières de département, bien sûr qu'une grande inquiétude existe, notamment dans l'imitation de NEPAS de fonctionnement, qui aujourd'hui nous empêche de bien préparer l'avenir. Nous serons certainement de ces départements qui seront en dépassement de nos objectifs de 1,2. À voir dans les discussions qui sont aujourd'hui avec le gouvernement, comment ça va évoluer. Certainement qu'on se dirige vers des départements ou une France avec deux vitesses, quoi, des départements qui pourront se permettre des dépenses de fonctionnement tolérées, d'autres pas. Et je pense notamment aux dépenses liées aux mineurs non accompagnés, qui nous inquiètent beaucoup. Et je crois bien qu'il y a débat à voir.
Combien pour le département du Lot?
Aujourd'hui, je ne saurais pas vous dire exactement où on en est, mais aux environs de 2 millions d'euros de dépassement aujourd'hui, un supplémentaire porté dans cette politique. Ce qui nous amènera certainement à avoir des discussions dans les mois à venir avec le gouvernement pour savoir comment on va se situer dans les années à venir. Ce qui est regrettable dans ce débat, ou ce manque de débat, on serait dire, c'est qu'on a du mal à organiser aussi notre avenir. Nous ne sommes pas très choqués au département du Lot d'avoir une limitation de nos dépenses de fonctionnement parce que nous l'avions voulu unanimement dès notre élection en 2015. Et nous l'avons mis en place jusqu'en 2018 où nous arrivons à un bilan où nous prouvons que nous avons bien maîtriser nos dépenses de fonctionnement au sein du département. Mais aussi, aujourd'hui, nous savons pouvoir dire les limites de ce jeu. Et aujourd'hui, notre département souffre de manque d'ingénierie, par exemple. Et si on s'arrête qu'au problème du fonctionnement, on ne mettra pas d'ingénierie en place et demain, on va s'appauvrir. Donc, je crois qu'il faut aussi avoir conscience et chaque fois que je peux le dire au plus haut niveau, de ces limites qu'on peut avoir dans les limites du fonctionnement. Et je crois que nous, on peut en apporter témoignage.
Merci Serge Rigal. On ouvre la discussion avec vos collègues. Hein. Alors, c'est des questions d'actualité et elles sont les plus larges possibles, mais surtout en fonction des réalités concrètes que vous vivez dans votre commune, des inquiétudes que vous pouvez avoir, des propositions aussi que vous souhaitez faire, des messages que vous souhaitez exprimer ce matin. C'est vraiment le principe de ces questions d'actualité. Qui souhaite intervenir? Voilà, madame, le micro va venir jusqu'à vous.
Ça marche,
ça marche tout seul. Oui, ça marche.
Ça marche. Monsieur le préfet.
En vous présentant pour ceux qui ne vous connaîtraient pas.
Catherine Calvi, maire de Montvalent. Monsieur le préfet, monsieur le président du conseil départemental du Lot et monsieur le président de l'association des maires et élus du Lot, je m'adresse à vous au nom de ma commune qui est Montvalent, ainsi qu'au nom de la commune de Martel, dont les élus ne peuvent pas être présents aujourd'hui. Les maires de Martel et de Montvalent se trouvent devant un problème très important relatif à la circulation des poids lourds et donc à la sécurité dans leur commune. Le trafic des poids lourds a beaucoup augmenté en général et en particulier celui des camions travaillant pour la méthanisation. Un arrêté du conseil départemental en date du 18 avril 2018 autorise la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes dans nos communes, contredisant en cela celui pris en 2009 pour raison de, je cite, « sécurité et sécurité publique ». Ce qui prévalait en 2009 n'est donc plus d'actualité en 2018. Monsieur le président du conseil départemental a répondu par une fin de non-recevoir à notre recours gracieux du 19 juin 2018. Monsieur le préfet a répondu en arguant de sa non-compétence à ce sujet. Il nous semblait pourtant naïvement qu'il était quand même un peu responsable. Notre courrier au président de l'association des maires du Lot est lui resté sans réponse. Dans un courrier du 3 août 2018, monsieur le préfet nous rappelle qu'en principe de sa compétence, le maire dispose de pouvoirs de police qui lui permettent de réglementer la circulation sur une route départementale lorsque celle-ci est située à l'intérieur de l'agglomération.
Je vais vous demander de conclure, hein, parce que si vous voulez avoir le temps de la réponse, justement...
Ça ne va pas être long. Ça va aller vite. Où est-ce que j'en étais, d'ailleurs? Bref. Monsieur le maire de Martel a pris un arrêté dans ce sens. Les panneaux ont été posés. Et alors, comment les faire respecter? Puisqu'à ce jour, aucun contrôle n'a été effectué. Depuis la prise de cet arrêté, il y a toujours autant, sinon plus, de camions. Sur qui les maires des petites communes peuvent-ils s'appuyer pour que s'applique la loi? Quel responsable quand un grave accident se produira? Nous sommes fatigués de tant de paroles et de si peu d'actes. D'ailleurs, nous avons une anecdote à vous faire partager et ce sera le mot de la fin. Le sous-préfet de Gourdon, accompagné de membres du conseil municipal de Montvalent, avait failli se faire écraser sur le passage piéton. Il a eu très peur, ce qui était bien normal, et avait promis de, entre guillemets, faire quelque chose. À ce jour, nous attendons toujours le quelque chose.
Alors, apparemment, là, sur l'anecdote, il y a un démenti par les gestes. Monsieur le président du conseil départemental.
Oui, je n'irai pas qu'on a eu un arrêté au mois d'avril qui a rouvert la circulation des poids lourds sur cette route. Mais avant d'aborder ça, je voulais quand même faire une petite remarque. Dire que j'ai reçu Madame le maire de Montvalent à son adjointe la semaine dernière. J'aurais dû la recevoir il y a un mois, mais pour des raisons strictement personnelles, j'ai été obligé de reporter ce rendez-vous. Nous avons eu une discussion, nous nous sommes mis d'accord de nous revoir et d'échanger des données.
Vous êtes mis d'accord de vous revoir.
Voilà, et d'échanger, je continue bien, et d'échanger des données, et je me rendrai à Montvalent, on risque de me faire séquestrer certainement, mais... Elles m'ont dit qu'elles avaient aussi des projets à me faire voir et donc la discussion est là et je trouve ça important. Donc, je dis ça parce que je n'ai jamais rencontré les élus de Martel. Pourtant, tous ceux qui me connaissent dans la salle savent très bien que mon bureau est ouvert à tous les élus, bien sûr, mais tous les lotoises et tous les toits peuvent accéder à mon bureau. Donc, quand on demande un rendez-vous, tous les rendez-vous sont honorés. Donc, je recevrai avec plaisir les élus de Martel, auxquels nous faisons des propositions sur un projet de route, d'un tracé qu'on appelle le Trétrois, la voie d'avenir, qui dévie Martel. Ils ne sont pas d'accord. J'entends. J'attends aussi des propositions. Je suis ouvert. Pour ça, faut-il encore venir me rencontrer ? Ou s'ils trouvent que le trajet Martel-Cahors est trop loin, m'inviter à venir à Martel, les rencontrer éventuellement. Mais tant qu'on aura un débat qui devra se faire ici lors de ce congrès, je ne crois pas qu'on avancera beaucoup. Donc je répondrai en disant j'invite ces élus à venir discuter au département pour qu'on puisse, notamment Martel, à la différence de Montvalent, où on n'a pas de projet de déviation, et je en comprends la difficulté, mais on en a longuement parlé avec les élus, de Martel, où on a des projets que les élus rejettent. Donc, je me pose la question. Je me dis, s'ils le rejettent, c'est qu'ils ont d'autres solutions. Et s'ils ont d'autres solutions, qu'ils viennent nous les proposer. Peut-être que nous nous sommes trompés. Moi, je suis prêt à l'entendre.
Jérôme Filippini, sur ce sujet.
Retrait.
Attendez. Le micro.
Adjoint à Montvalent, en attendant, nous sommes les otages des décisions de Martel et on en subit les conséquences et on n'a aucune réponse. On nous dit attendez 6 mois. Alors bon, qu'est-ce qu'on fait ?
Vous n'êtes pas otage de la proposition de Martel parce que j'ai fait des propositions, des choses qui ont évolué depuis quelques mois et maintenant. On mesure, et c'était l'engagement que j'ai pris auprès de vos collègues élus de Martel, de vous faire part de nos mesures du nombre de poids lourds qui circulent cette voie. Donc, il y a une mesure qui a été mise en place il y a quelques jours, qui est là pour 6 mois, et on va voir l'évolution, sachant que le trafic va être petit à petit détourné de son entrée dans le département, notamment de Figeac, pour aller sur la 802, qui aujourd'hui est ouverte encore plus au poids lourd qu'hier, du fait de la déviation de Cam qui est ouverte.
Donc, tous Monsieur ces éléments, le préfet, maintenant, sur ce thème.
Je ne veux pas rentrer dans un problème plus technique, mais...
Très rapidement, je vais aller dans le sens de ce que le président du conseil départemental a dit. Je suis venu le 10 juillet à l'invitation du maire de Martel et avec la maire de Montvalent. Nous nous sommes vus. J'ai dit une chose. S'il n'y a pas d'échange entre les élus et le président du conseil départemental, ça n'avancera pas. Rapprochez-vous de lui et parlez entre vous pour que les mesures d'abord permettent d'objectiver s'il y a oui ou non augmentation du trafic, parce que du trafic, il y en avait auparavant. Et puis, s'il y a des solutions à trouver... Il faut le faire. Par courrier du 3 août dernier, je voulais confirmer cette position-là. Et le fait que Martel ait pris un arrêté, qui est un arrêté aujourd'hui inapplicable, puisqu'il ne tient pas compte du reste de la circulation, est un problème en soi. Donc il faut bien sûr, dans ce cadre-là, comme dans beaucoup d'autres cadres, que les élus se parlent. Moi, j'assumerai, s'il le faut, in fine, une décision, une responsabilité qui se superposera à la vôtre, mais je crois que ça ne sera pas nécessaire, comme le propose le président. Il y a sans doute des solutions à trouver au niveau du dialogue.
Autre question, autre sujet. Voilà, il y a une main qui se lève là-bas.
Je passe au moment. Oui.
Oui, parfaitement.
Donc, je suis Philippe Landrin, donc premier adjoint à Cambura. Je vais vous poser une question qui est vraiment sur le thème de ce matin. Nous avons donc à Cambura, avec Lissac et Moret et Cambouli, engagé un process de commune nouvelle qui n'a pas abouti pour plein de raisons, et entre autres pour des raisons d'opposition dans un certain conseil municipal. Ce conseil municipal, la personne qui manageait cette opposition, nous a fait part de la position, je dis bien de la position, et nous en a fait part, c'est pas du tout je ne critique pas l'AMF pour ça, mais en tout cas, il semblerait que l'AMF locale, c'est-à-dire l'AMF lotoise, ait porté un avis plutôt défavorable à la constitution de communes nouvelles, ce qui n'est pas le cas de l'AMF au niveau national. Il suffit d'aller sur le site pour voir que l'objectif est de passer à 35 000 communes. Je ne suis pas un défenseur des communes nouvelles. Je trouvais que le projet était intéressant. Et j'aimerais aujourd'hui, et c'est une vraie question, je voudrais savoir aujourd'hui quelle est la position de l'AMF du Lot sur les communes nouvelles, quelle est la position du conseil départemental, mais aussi quelle est la position de l'État sur les communes nouvelles.
Alors, Jean-Marc Vesoussefour, si vous êtes... critique ou dubitatif ou au contraire enthousiaste sur les communes nouvelles ?
Alors d'abord, préciser que je n'ai jamais eu, je n'en aurai jamais d'avis tranché, dogmatique sur pour ou contre les communes nouvelles. Ce serait d'ailleurs absurde. Pourquoi ? Parce que les projets de communes nouvelles sont toujours extrêmement différent dans les motivations. Et donc, je ne vois pas de quel droit je me permettrais d'avoir un quelconque jugement. Donc, si certains me portent des jugements que j'aurais pu avoir, il suffit de venir m'interroger et je vous le donnerai. Vous m'interpellez d'ailleurs dans cette assemblée, je peux très bien le faire. Parce que des communes nouvelles, il y en a eu pas mal sur ce territoire, il y en a eu de très différentes. Il y a eu celle de Sousserac, c'était une communauté qui s'est transformée en commune nouvelle. Il y en a autour d'une ville-centre. Il y en a qui sont des communes nouvelles qui se limitent à deux communes voisines qui ont fusionné. Et je constate aussi qu'il y a parfois des communes nouvelles, je le dis, je n'ai pas peur de le dire, qui sont aussi la conséquence de la lassitude des élus. C'est-à-dire que certains s'engagent dans des communes nouvelles parce qu'ils ne sont pas partis pour se représenter et qui se disent, eh bien écoutez, dans cette commune nouvelle, ils gèreront mon territoire. Ce n'est pas du tout la même chose. Quand une commune nouvelle s'appuie sur un projet de territoire, quand une commune nouvelle n'est pas motivée que pour des raisons financières, parce que c'est évidemment absurde, le financier, on le sait, dans la durée, ne reste pas. Je suis évidemment favorable à ces communes nouvelles. D'autant plus qu'en général, quand ça s'est passé comme ça, il y a une forte adhésion et il y a en général une unanimité pour le créer. Quand elles sont pour d'autres raisons, je suis évidemment beaucoup plus sceptique. Mais je vais vous dire, ça vaut aussi un petit peu pour la constitution des communautés de communes. On est toujours dans le débat qu'on a eu ce matin.
Jérôme Filippini, alors là, le calendrier aussi sur les communes nouvelles, puisque la fenêtre de tir se referme bientôt quand même. Allez, d'abord le département.
Je veux dire, le département n'a pas donné d'avis sur les communes nouvelles. C'est quelque chose qui se fait, j'allais dire, naturellement entre communes. Donc là-dessus, moi je me réjouis de voir des communes nouvelles se monter, surtout quand elles sont porteuses de projets. C'est surtout ça, je redis ce qu'a dit Jean-Marc, et à regretter que certaines se fassent un peu forcer ou l'impression de te forcer parce qu'il y a une lassitude des maires et là, ceux-là ne réussiront pas à amener des vrais services à la population. Quant aux autres qui mènent de la dynamique sur un territoire, eh bien, bravo, c'est ce qu'il faut. Et il y a d'autres communes qui ne sont pas communes nouvelles qui amènent aussi des projets sur un territoire et je dis toujours bravo.
D'accord.
Oui, nous sommes ni la Manche ni le Lot-et-Garonne. Donc, il y a une trentaine de communes au total qui ont ou qui vont fusionner sur 340 au départ. Et moi, quand je suis allé à Sousserac en Quercy, quand je vais régulièrement à Montcuq en Quercy blanc, quand je discute avec les maires de Saint-Donès, Saint-Pantaléon ou Bagat en Quercy, j'ai l'impression que, pour créer cette belle commune de Barguelonne en Quercy, j'ai l'impression qu'il y a du très positif qui est en train de se passer. Et si on remonte à l'histoire de la loi Marcellin, il faudrait voir, les historiens et les universitaires devront travailler là-dessus, pourquoi aujourd'hui, j'ai l'impression que ça se passe très différemment de la façon dont ça s'est passé à l'époque. Et plutôt des belles histoires, durables, parce que souvent derrière, il y a des projets, notamment des projets d'évolution de l'école et de création d'une école durable, mais pas seulement. Et que voilà, la dynamique est à l'œuvre. Elle est de façon très différente dans le département, aujourd'hui très concentrée finalement dans la communauté de communes de Quercy-Blanc. Oui. Il y a bientôt quasiment plus que des communes nouvelles, donc il y a sans doute un effet d'émulation et d'imitation. J'ai toujours dit, et je pense que ma prédécesseure disait la même chose, l'État n'est pas mandaté pour vous forcer à faire des communes nouvelles. Voilà. Et ne le faites pas pour des raisons comptables, ne le faites pas parce qu'il y a de la DGF bonifiée, faites-le parce que vous y projetez un avenir, et y compris d'ailleurs s'il y a de la lassitude de certains élus, ça veut dire aussi qu'il y a la capacité dans des communes qui n'ont pas beaucoup de population à trouver des volontaires nouveaux pour s'engager à une échelle qui peut être plus large. Voilà. Donc pas d'obligation du tout, en revanche, plein soutien de l'État chaque fois que vous voudrez en créer.
Là aussi, un fil rouge de cette matinée, c'est le projet revenir au projet qui est porté avec une vision du territoire.
Et juste sur les communes nouvelles, avoir bien conscience quand même des éléments qui sont posés et qui sont la conséquence des communes nouvelles. J'entends notamment parfois que lorsqu'on est en commune nouvelle, on va avoir plus de population, donc on va plus peser dans les intercommunalités. C'est malheureusement l'inverse. Moi, j'ai l'exemple de Belfond-la-Rose. Ils avaient trois représentants parce qu'ils en avaient une par commune. Ils n'en ont plus qu'une. Pour deux raisons. D'abord parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'accord local, qui en a enlevé un, c'est tout à fait vrai. Et ensuite parce que forcément, quand vous êtes une commune nouvelle, vous comptez pour une commune. Il n'y a plus cette règle d'avoir un minimum d'un représentant pour une commune. Et ça, je pense que comme ça a été fait dans la loi pour prévoir qu'il restait des maires délégués, il me semble que dans un premier temps, en tout cas, il ne serait pas inutile que les maires des communes déléguées puissent continuer à peser et à siéger au sein des intercommunalités. Je pense que ça irait dans le bon sens.
Alors, y a-t-il encore une question, un thème que vous souhaitez aborder? Voilà. Le micro arrive des deux côtés vers vous. Et ça sera notre dernière question, s'il n'y a pas de main qui se lève, pour qu'on puisse respecter les temps sur ce matin. Voilà, il y a encore une dernière main qui se lève. Allez-y.
Je me présente, Salis Daniel. Je suis conseiller municipal sur la petite commune du Bouissou. Nous avons voté il n'y a pas très longtemps contre le projet de la méthanisation. Je voudrais savoir comment monsieur le préfet se situe. Il a dû recevoir du courrier. Tout à l'heure, il y avait des voix qui s'élevaient. J'en fais partie, je suis solidaire. Voilà, je voulais savoir comment vous réagissez, où est-ce que vous en êtes.
On va prendre la dernière intervention pour savoir sur quel point elle porte. Voilà, tout au bout. Voilà, la dernière rang.
Oui, bonjour. François Gillet, conseiller municipal à Saint-Bressous. Je voudrais revenir sur les... où tout le monde est content de vous relancer les mairies, les conseils municipaux, parce que c'est le cœur de la démocratie. En gros, quand un conseiller municipal écrit au président de la communauté de communes sur les routes, parce que les camions, ce n'est pas que sur les départementales qu'elles sont abîmées, le président de la communauté de communes ne répond toujours pas. Bon, c'est M. Labarthe, parce que je ne veux pas dire que... Et ça fait des mois qu'on demande.
Alors, on lui poserait la question peut-être tout à l'heure. Là, on a en face de vous des gens qui ne peuvent pas répondre à cette question.
Monsieur le préfet était au courant aussi par rapport à ça. Par rapport à la qualité de l'eau, il y a chaque année, enfin, il y a en 2016, il y a eu une assise de l'eau où tout le monde, madame la préfète, disait que c'était grave, c'était 50% d'eau pas très correcte. Il y a eu des nouvelles assises de l'eau. Il en ressort, je n'y étais pas cette fois-ci, donc je ne veux pas dire ce qui est derrière moi sorti. On est en train, avec les projets de méthanisation, de polluer, de prendre des risques de pollution de l'eau. Au niveau de la démocratie, ce que souhaité par tous les élus ici, il n'y a pas eu de discussion et de concertation avec les citoyens par rapport au projet de méthaniseur dans le Ségala. On va nous imposer ce genre de truc et après on va nous demander d'être motivés pour faire notre boulot de conseiller municipal et autres. Je pense que de ce côté-là, c'est un peu inadmissible de la part de certains notables qui... en public ou dans la presse disent oui, je ne suis pas content, ça sent mauvais, etc. Et d'un autre côté, ils vont faire des méthaniseurs dans leur zone et ça puera aussi pour les citoyens environnants.
Merci. Merci. Alors, monsieur le préfet, cette question, effectivement, qu'on a pu voir s'exprimer de diverses façons ce matin.
Bon, la meilleure façon de l'exprimer, c'est d'en parler, mais de s'en parler, c'est-à-dire d'en parler avec un niveau sonore qui permet à ceux qui sont interpellés de répondre, ce qui va être le cas à ce moment, et je vous remercie tous les deux d'avoir posé la question. La méthanisation, c'est comme d'autres énergies renouvelables qu'on a en face de nous, les éoliennes, l'hydroélectrique, le solaire, la biomasse. On est tous plutôt pour, globalement, aller dans ce sens-là, parce que heureusement, la conscience environnementale progresse dans notre pays. Moi, je m'en réjouis. Et on a tous, les gouvernements successifs ont pris des engagements de plus en plus résolus. L'intention de décarboner notre économie, d'arrêter d'utiliser du charbon et de sortir, en tout cas, de la domination du nucléaire. Si on veut faire ça, quels que soient les pourcentages, ça veut dire qu'il y aura moins de nucléaire, moins de charbon et beaucoup plus d'autres choses. Ça veut dire qu'il y aura des éoliennes quelque part dans notre paysage. Moi, il m'arrive de passer des vacances dans un coin où l'air est plus proche de la mer et où il y a des projets d'éoliennes sur la mer, peut-être un jour en face du paysage que je connais. Ici, à Sousserac, en Quercy, il y a 3 éoliennes. Des parcs photovoltaïques, il commence à y en avoir quelques-uns et de façon très intelligente sur le territoire, de façon portée par les habitants et soutenue par les habitants. L'hydroélectrique, que se passerait-il aujourd'hui si on voulait faire un barrage comme ceux qui sont à Cajar ou à Luzèche? Combien d'opposition on aurait pour faire ce qui aujourd'hui produit notre électricité, nous assure la vie, nous permet de fonctionner quels que soient nos modes de consommation? Autrement dit, derrière tous ces projets-là, il y a toujours des règles à respecter, des contraintes à accepter et des bénéfices à en retirer. Et c'est la balance entre les uns et les autres qui doit être faite. Pour la méthanisation, c'est la même chose. L'État, le gouvernement français, comme d'ailleurs tous les gouvernements européens, soutiennent le développement des filières qui permettent de modifier le mix énergétique et de développer les énergies renouvelables. La méthanisation est un processus qui permet de produire de l'énergie, de l'électricité et de la chaleur en traitant des effluents qui autrefois n'étaient pas valorisés. Effluents qu'on peut dire vouloir disparaître totalement, cachés sous la terre ou ne pas produire chez nous. Sauf qu'aujourd'hui, chez nous, il y a des agriculteurs, il y a une filière agroalimentaire qui fait l'honneur du Lot, qui fait la richesse du Lot aussi, qui vit notamment dans le cœur de notre département avec les infrastructures que vous connaissez. Donc ces résidus qui sortent de l'industrie agroalimentaire, il faut les traiter. Le produit qui sort aussi des exploitations agricoles sur le Figeacois, il faut les traiter. Aujourd'hui, on les épand d'une certaine manière. Il peut y avoir des projets qui visent, grâce à des unités de méthanisation, de les traiter d'une meilleure manière, d'une manière plus saine, plus maîtrisée, plus contrôlée. L'État n'est pas là pour promouvoir ou pour interdire. Mais l'État, ça a été ma prédécesseure, et moi j'assume tout à fait, a autorisé la création d'une unité de méthanisation à Gramat, pour les raisons que je vous ai dites, notamment de filière, de cohérence de filière, pour traiter 70% de déchets de l'industrie agroalimentaire qui viennent du Lot, hein, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas de l'Est de la France ou de la Corse, ils viennent du Lot et les autres viennent des départements voisins. Ce projet a été autorisé dans des conditions de contrôle extrêmement importantes, de contrôle et de concertation. Le prédécesseur de Jean-Luc Tarrega a fait des dizaines de réunions. Ma prédécesseure a pris un arrêté d'autorisation, puis un arrêté complémentaire qui a ajouté encore des restrictions. Depuis un an, l'unité est en service et je dois dire que j'ai eu l'occasion de m'impatienter à l'égard de l'opérateur parce que j'ai considéré qu'il ne faisait pas tous les efforts et je lui ai dit de toutes les manières, y compris juridiques, qu'il ne fait pas tous les efforts pour ne pas saboter la cause de la méthanisation de notre département. Je lui ai écrit encore récemment et donc pour être très transparent devant vous, Bioquercy est autorisé, Bioquercy fonctionne dans des conditions qui sont conformes à l'arrêté, sauf sur certains points et notamment les odeurs qui polluent depuis plusieurs semaines l'environnement. J'ai demandé des efforts drastiques à cette entreprise. Si elle ne les fait pas à brève échéance, je sévirai. Mais on ne peut pas, en même temps, tout confondre. Et on ne peut pas vouloir être hostile à des projets qui permettent aussi à des agriculteurs demain de continuer à vivre sur leur territoire. Quand j'entends qu'ici ou là, il peut y avoir une hostilité à des projets qui concernent la méthanisation par l'agriculteur lui-même, sur son exploitation lui-même, des effluents qui sont les siens, alors je me demande dans quel Lot on veut vivre. Donc voilà la réponse que je vous fais sur la méthanisation. Il ne s'agit pas d'être un promoteur de tel ou tel type d'énergie, sauf que si on veut sortir du nucléaire et décarboner notre planète, il va falloir quand même savoir ce qu'on fait autrement. Et puis, ensuite, vigilance, très grande vigilance, exigence, comptez sur moi pour continuer à l'être, mais ne pas être systématiquement hostile à tout projet, quel qu'il soit, et ne pas dire qu'il n'y a pas de concertation, parce qu'il y en a énormément sur ce sujet-là. Aujourd'hui, sur Bioquercy, avec Jean-Luc Tarrega, qui a fait la première commission locale, en juillet, qui a été salué par tous les interlocuteurs qui étaient présents, par Mme Chaïb avec les élus et les porteurs de projets sur les fermes de Figeac, aujourd'hui dans le ressort du Figeacois, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de concertation. On peut être hostile, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de concertation. Sur l'eau, et je termine juste là-dessus, évidemment c'est un enjeu crucial. Et Catherine Ferrier, il y a beaucoup d'affinités entre nous, elle disait des choses que je partage, et notamment qu'on ne peut pas se cacher derrière son petit doigt. Nous allons devoir affronter dans les années qui viennent des situations dramatiques. Nous en sommes tous responsables. La façon dont nous avons consommé sur notre planète dans les 100 dernières années fait qu'en 2040, le climat du Lot sera plus proche du milieu de l'Espagne. Donc évidemment qu'il va falloir se préoccuper de la façon dont nous consommons l'eau, dont nous la protégeons, dont nous protégeons les sources, dont nous les entretenons. Et de ce point de vue-là, nous plaidons, je ne veux pas l'appeler trop dans mon plaidoyer, mais nous plaidons avec le président du conseil départemental dans le cadre des assises de l'eau que nous avons faites récemment, pour qu'on s'organise à la bonne hauteur et à la bonne échelle pour être capable de faire face demain au dramatique sujet de la disponibilité de l'eau en quantité et en qualité. Vouloir garder l'existant aujourd'hui, ce n'est pas servir nos enfants.
Merci, monsieur le préfet. Alors, la phase de débat et de discussion s'achève et vous êtes invité à rejoindre le pupitre pour conclure cette matinée.